les jardinières.
Salut à tous, bienvenue dans les jardinières et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie et chers amis du jardin, aujourd'hui nous accueillons un amateur de la fête de Queuve mais aussi de rhubarbe ou tout autre végétaux qui se trouve dans votre jardin. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Bonjour et bienvenue Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Notre professionnel du jour est là tout spécialement pour vous ce matin afin que vous puissiez lui poser toutes les questions concernant le jardinage, toutes celles qui vous passent par la tête. C'est le début du mois de juin, mais on n'est pas encore au repos, hein, les grandes vacances, c'est pas pour tout de suite. Quoique, quand on jardine, on a plutôt l'impression de se détendre que de travailler.
Et pour jardiner totalement à l'aise, vous pouvez nous filer un coup de fil au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez discuter directement de votre problème de jardin avec Jean-Pierre Ribaud. Et les jardinières sont aussi là pour lire toutes les questions que vous nous envoyez, soit par SMS au 939, en commençant votre message par le mot jardin et un espace avant la question, soit par formulaire internet sous l'onglet émissions questions jardinières sur notre site. Pour que Jean-Pierre puisse vous répondre au mieux, n'hésitez pas à nous donner un maximum d'informations et bien sûr le standard est toujours à votre disposition pour ajouter des précisions au 0901 70 20 20.
Et bien tout est dit, c'est parti pour les jardinières du 2 juin.
Les jardinières, Sarah et Stéphanie.
Anita de Courfèvre nous a appelé tout à l'heure. Elle a une question pour vous, Jean-Pierre. Elle a planté 2 pieds de renoncule et 2 pieds d'anémone. Alors, les anémones vont bien. Par contre, pour les renoncules, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Elles ont pourri et elle se demande si c'est parce qu'elle a mis trop d'eau ou si c'est une question, un problème avec la terre.
Oui, bonjour Anita. Non, certainement que vous aviez une terre qui était un petit peu trop grasse et puis un peu trop fraîche par rapport à l'emplacement où vous les avez plantées. C'est simplement ça. C'est assez facile à faire démarrer quand on est dans une terre un petit peu poreuse, aérée, exposée un peu plein sud. Mais si vous étiez un peu sur l'envers, vraiment dans un endroit un peu trop frais, elle n'apprécie pas du tout cet espace-là, la renoncule.
Elle se demandait d'ailleurs pour la renoncule, est-ce qu'il faut la planter en automne? Est-ce qu'il faut la laisser en terre pendant l'hiver? Comment faire pour avoir une belle renoncule?
Non, mais la renoncule est une plante vivace, donc elle peut se planter à partir du moment où on la trouve d'une qualité acceptable dans les grandes surfaces. La plantation est aussi relativement simple. Simplement choisir son emplacement idéal, c'est comme j'ai cité, donc exposer plein sud, super terre drainante. Planter pas trop profond, un bon arrosage au démarrage, et puis la reprise est garantie.
Et c'est en quelle période donc où il faut la planter?
C'est égal, quand vous la trouvez dans les grandes surfaces. Je dirais que maintenant, on a encore des super plants qui s'y trouvent. Si vous attendez trop tard, après, c'est les rebuts un peu des ventes qui restent. La qualité est moindre parce que c'est aussi des plantes qui auront souffert durant le mois de juin et juillet dans les pots. Et puis, on sait que dans les pots, ça reste un calvaire pour les plantes parce que quand il fait très chaud, bien sûr, les racines souffrent, l'arrosage n'est pas optimum. Et puis, son développement est un peu saturé par l'espace limité du pot.
Et bien sûr, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de vos renoncules ainsi que toutes les plantes que vous avez expérimentées. C'est toujours intéressant d'avoir un suivi. On a reçu une question de Mario de Bienne qui a de l'herbe dans sa rocaille. Que peut-il faire pour l'enlever, Jean-Pierre?
Eh bien Mario, effectivement, si vous avez de la mauvaise herbe dans la rocaille, c'est pas tout simple. Ça dépend un peu de la mauvaise herbe que vous avez. Si c'est du chien dent, si c'est de la prêle, si c'est des plantes qui sont comme ça, terriblement vivaces, là, il n'y a que le moyen chimique pour arriver à s'en défaire. Vous les trouvez les produits dans les surfaces commerciales. Après, si c'est de l'annuel, alors c'est nettement plus facile, c'est juste au désherbage manuel. Après, il faut voir peut-être l'implantation du massif. Si c'est des grands espaces qui sont dégagés entre les plantes vivaces, une bâche avec un mulchi par-dessus pour étouffer cette mauvaise herbe par asphyxie est faisable. Il faut toujours voir la densité des vivaces qui sont dans cette plate-bande.
Julien Dulandron a récupéré des bouteilles d'antinuisibles et d'antipucerons qui sont fermées hermétiquement, mais qui sont malheureusement périmées depuis 2007. Alors peut-il encore les utiliser?
Non, je crois pas. Le mieux, c'est de mettre ça aux déchets spécialisés. Je connais pas sur Neuchâtel les zones. Ici, sur le Jura, on en a en tout cas 3 de ces centres de ramassage. Il est très important de les mettre justement à ces centres de ramassage, ne pas mettre ça dans les déchets ménagers, surtout pas dans les égouts, encore moins dans la nature, bien sûr.
Oui, c'est bien de le préciser, hein, effectivement. Normalement, c'est valable combien de temps, ce genre de produit?
Alors ça dépend un peu des produits, mais en général, l'espérance d'utilisation peut être de 4-5 ans. S'il a des produits périmés depuis 2007 déjà, c'est certainement des très très vieux produits, certainement encore avec des classes de toxicité antérieures à ce qu'on connaît maintenant. C'était à l'époque des classes 1, 2 et 3, nettement violents, je dirais, au niveau nature, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on trouvait des produits très très méchants. Maintenant, ils ont vraiment diminué les doses de densité de produits et de matières actives dans nos nouveaux produits maintenant. Non, le mieux, c'est de ne pas utiliser ces produits.
Lorsqu'on achète des herbes aromatiques en pot, est-ce qu'il faut absolument les replanter pour qu'elles continuent de faire des feuilles? Ou est-ce que si on les laisse dans le pot et qu'on en prend soin, ça va aussi? C'est Kevin de Peuzeux qui nous posait cette question.
Oui, bonjour Kevin. Ça dépend un peu du pot dans lequel se trouve votre plante aromatique. Si c'est un pot qui est relativement grand, auquel vous pourrez lui vouer du soin au niveau arrosage, adjonction d'engrais à part arrosage, et puis le mettre dans un endroit qui n'est pas trop trop exposé plein sud, parce qu'on sait que justement ces pots, quand on arrive dans des périodes caniculaires, et le pot chauffe, et le terreau chauffe, et toute la plante souffre. Mmh. Alors là, vous arriverez à la conserver, cette plante, dans ce pot. Maintenant, si vous voulez vraiment une plante aromatique qui s'épanouisse, le mieux, c'est quand même de pouvoir la mettre dans un grand massif terreux. Alors après, ça peut être un jardin suspendu, comme on rencontre couramment maintenant dans les grandes surfaces qu'on peut acheter, ou alors dans une plate-bande aux bordures de jardin, de potager. C'est nettement plus facile de l'attirer vraiment en avant, c'est sûr.
Et si donc les plantes aromatiques, donc c'est vrai que c'est de plus en plus courant, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut garder plusieurs années sans qu'elles pourrissent, ou est-ce que c'est quelque chose à remplacer quand même relativement souvent?
Alors non, les plantes aromatiques en général, c'est des plantes vivaces qui tiennent vraiment sur des années durant. Il y a juste une précaution assez particulière à prendre si vous avez l'envie de planter une plante telle que la menthe. La menthe est une plante avec des racines très traçantes qui est très envahissante. Mmh. Alors si vous voulez contenir votre pied de menthe dans votre potager, dans votre jardin aromatique, le mieux c'est de la planter, vous prenez un grand pot plastique, vous y coupez le fond pour que l'échange se fasse au niveau du sol par le fond. Et puis, vous mettez votre pot à hauteur de terre, vous l'enterrez carrément. Et puis, votre menthe, vous la planterez dans ce pot. Alors là, évidemment, vous voulez me dire que c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le pot, se trouvant dans le terrain, il ne va pas subir les alinéas des hautes températures. L'humidité, la plante, elle l'aura par le fait que le pot, il se trouve carrément dans le terrain. Et puis, vous arrivez vraiment à contenir cette plante de menthe, parce que sinon, elle est envahissante, telle que le chien dent, pour ceux qui connaissent le chien dent.
Nous avons donc une ligne téléphonique, 0900 70 20 20, et nous avons quelqu'un en ligne, Sarah.
C'est Robert de Courant de la Quête avec nous. Bonjour Robert.
Oui, bonjour.
Bonjour Robert.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Nickel, et vous?
Très bien, merci. Donc, je cherche à m'informer parce que j'ai une invasion de fourmis dans mon jardin potager et qui s'en prennent notamment mes plants de courgettes. Et je cherche à savoir comment faire pour m'en débarrasser. Voilà.
Oui, vous avez certainement un emplacement assez séchard au niveau du potager. Peut-être vous avez encore des dallages tout autour. Il faudrait voir l'élément.
Absolument. Oui. Vous avez il y a des dallages à certains endroits, en effet, oui.
Oui, et puis justement, ce dallage, eh ben, par la répercussion de la température, ça chauffe le dessous, la fourmi s'y plaît à merveille, et puis vous avez les fourmilières qui arrivent. Après, sans défaire, c'est difficile, c'est l'emplacement qui est peut-être un peu mal choisi pour l'implantation de votre potager, parce que la fourmi, il n'y a pas vraiment de traitement l'idéal pour s'en défaire. Si l'endroit était plutôt frais, plutôt humide, ben évidemment, la lutte se ferait tout naturelle parce qu'elle ne supporterait pas cet espace. C'est l'emplacement de votre potager qui fait. Et puis justement, ce dallage que vous avez tout autour. Si vous pouviez mettre, par exemple, votre dallage avec un vide sanitaire en dessous, vous auriez nettement moins
D'accord.
de problèmes, c'est sûr.
Alors j'ai marqué qu'un endroit particulier, donc il y a quelques plantes grasses, et donc là il y a, on va dire, une fourmilière qui s'est créée.
Oui.
Donc elle chemine, on va dire, le long du dallage. Elle ne rentre pas directement, on va dire, en ligne droite dans le jardin potager, mais elles font le tour.
Oui.
Mais il n'existe pas des moyens de limiter le passage, justement, avec quelque chose qui soit répulsif ou quoi que ce soit d'autre?
Non, à part l'humidité, je dirais qu'il va vraiment la déranger. Non.
L'humidité va les déranger de toute façon.
Ah oui, l'humidité, l'endroit un peu frais, oui. C'est pour ça que le problème, il est plutôt à l'emplacement de votre potager, c'est ça.
Mm-hmm. Mais on peut imaginer que sur leur lieu de passage de prédilection, ce soit tout le temps constamment arrosé ou humidifié, ça pourrait limiter le passage.
Ça pourrait la limiter, tout à fait. Après, il y a aussi des petits produits qu'on trouve dans le commerce, hein, qu'on peut mettre aussi dans les appartements quand on est envahi par ces petits parasites. Mais sur votre espace, à vous, ça va être compliqué de combattre avec ces petits modules, parce que j'imagine bien que si vous posez la question, le problème, il est conséquent.
Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, je suis surpris, parce qu'en fait, le potager existait là depuis bien des années maintenant. Et j'ai repris, moi, donc, on va dire, le jardinage de ce jardin cette année. Oui. Mais j'ai pas eu connaissance de ce problème auparavant. Donc, c'est pour ça que je suis très surpris, disons, de l'invasion de ces fourmis, quoi. Voilà.
OK. Mais après, normalement, la fourmi, c'est pas un parasite proprement dit des légumes. La fourmi, elle peut être intéressée des fois par l'excrément du puceron parce qu'il est sucré et puis elle vient manger ça. Tout comme l'abeille, hein, on le sait.
Oui.
Mais ce n'est pas un problème particulier, je dirais, dans le milieu nature, au niveau végétal.
Ah, d'accord. Donc, à la limite, même si elle chemine, en fait, sur toute la surface du jardin, ce n'est pas forcément un problème.
Ah non, pas du tout.
Pour les plantations.
Pas du tout.
D'accord.
Elle va peut-être un peu déplacer les œufs de pucerons quand elle va justement manger ce festin-là. Mais vous n'aurez en tout cas pas de dégâts sur vos végétaux avec la fourmi, c'est sûr.
D'accord, parce que je les ai vus rentrer, il semblerait que dans les plants de courgettes, là, c'est une plante qui soit creuse, hein.
Oui.
Et puis, bon, voilà, quoi, j'ai pas passé ma journée à les observer, mais enfin, il semblerait que je les ai vus rentrer à l'intérieur de ces plants. C'est pour ça que je m'inquiétais, disons, sur la pérennité de tous les éléments végétaux, quoi.
Ok, non, mais certainement que vous avez déjà une petite attaque de limaces sur la courgette qui a occasionné un petit dégât, et puis peut-être que la fourmi est passée par là pour se rendre compte des choses, mais elle ne peut pas occasionner de dégâts sur vos plantations.
Ok, très bien, d'accord. Bon, bah, écoutez, alors, à ce moment-là, je suis tranquillisé.
Merveilleux, merci.
Une bonne nouvelle, alors. Merci, Robert. Une bonne journée.
Merci d'avoir répondu, et bonne journée. Merci.
Belle journée.
Vous pouvez vous aussi faire comme Robert et nous appeler au 0901 70 20 20 pour poser toutes vos questions à Jean-Pierre Ribaud. Nous avons d'ailleurs un auditeur des Rouges Terres qui sera là tout à l'heure après une pause musicale.
Les jardinières.
Nous avons une question d'Elisabeth de Porrentruy, Jean-Pierre, qui a nettoyé ses pavés au Karcher avec de l'eau et du savon bio, mais il reste de la mousse entre les pavés. Comment est-ce que Elisabeth peut nettoyer cela ?
Bonjour Elisabeth. La question, elle est plutôt de savoir quelle sorte de pavé vous avez, si c'est un pavé qui est béton avec des espaces très restreints, ou si c'est des pavés avec des espaces drainants ou des pavés granit, la différence de l'intervention sera là. Si c'est un pavé béton avec un karcher, en général, on arrive à les nettoyer sans problème. Si c'est des joints qui sont très ouverts, c'est difficile parce que ce qui arrive, on arrive à vider le joint, l'espace, et puis après, il y a un risque de stabilité de vos pavés. Ce qui est sûr, c'est que pour éviter ce problème, avec une application de sel durant l'hiver sur vos pavés pour dégeler vos surfaces, vous aurez une bonne lutte préventive sur les mousses. Toujours est-il que si c'est de nouveau des pavés granit avec des espaces d'un centimètre, évidemment que la lutte sera plus difficile parce que l'espace est nettement plus conséquent pour que la mousse puisse prendre pied et puisse en défaire. Je ne pourrais pas dire mieux. Le savon, c'est de toute façon pas une bonne solution.
Voilà, c'est ce que j'allais demander. Utiliser du savon, mais il y a un savon spécial pour nettoyer les pavés, ou c'est vraiment... Elle a utilisé, à mon avis, un savon classique.
Alors, je ne sais pas quel est le savon, mais je ne vois pas quel est le savon qui peut s'utiliser non plus pour un nettoyage de pavage. Simplement avec une bonne machine à pression, et puis il y a des buses rotatives qui existent justement pour nettoyer ces surfaces. On fait vraiment un super travail. Simplement, il faut se prémunir de ne pas vider tous les espaces, les joints, les volumes drainants entre les pavés, parce que sinon, de un, c'est pas beau, de deux, vous avez plein de sable qui arrive, et puis c'est pas la super solution, bien sûr.
Combien de fois une fois par année, vous préconisez de nettoyer des pavés au karcher, ou c'est quelque chose qu'on peut faire toutes les... Enfin, ça dépend un peu de la couche de saleté, on va dire.
Oui, mais en général, par chez nous, une fois par année suffit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, les machines à pression, elles sont assez agressives au niveau des bétons. Et puis, le fait de les laver, ça va vous creuser les pores de vos pavés qui vont amplifier les problèmes dans le temps. Donc, une fois par année suffit.
Il existe un produit pour mettre sur le pavé pour qu'il se salisse un petit peu moins rapidement?
Oui, alors on le met souvent, enfin, on peut déjà acheter dans le commerce des dalles qui sont déjà traitées à l'hydrofuge. C'est un produit qui qui bouge justement une partie de ses pores. Après, à l'application privée, quand vous avez posé vos dalles au bout de 2-3 ans et puis qu'elles ont tendance à venir sales relativement vite, une fois le karcher passé et puis le dallage sec, vous pouvez acheter ces produits hydrofuges dans les grandes surfaces, dans les maisons spécialisées. Ça s'applique avec une pompe à traiter. C'est relativement efficace. Ça bouche une partie de ses pores. Évidemment que ce n'est pas un produit qui tient 10 ans. Et puis, vous avez quand même votre dallage au bout de 2 ans qui va revenir terne.
Les jardinières sont là pour vous jusqu'à 8 heures. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute et pour poser toutes vos questions à Jean-Pierre Ribaud qui est là pour vous ce matin. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Et il y a aussi le formulaire internet que vous retrouvez sur notre site. On se retrouve tout de suite après la météo et les inforoutes.
7h, 8h, les jardinières.
Jusqu'à 8h, vos jardins sont à l'honneur sur votre radio préférée. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre professionnel Jean-Pierre Ribaud. Pour ça, il suffit de prendre votre téléphone.
Et de composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. On s'occupe personnellement de votre cas. Si vous n'osez pas parler en direct, ne vous privez pas du savoir de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Envoyez-nous votre question par écrit, par SMS au 939 en tapant le mot « jardin ». Un espace avant de nous raconter votre problème de jardinage. Il existe aussi un formulaire internet sous l'onglet émission questions jardinières qui nous arrivera instantanément. Donnez-nous toujours un maximum de détails pour qu'on puisse vous satisfaire au mieux.
Et nous avions reçu un SMS, hein, Sarah.
C'est ça, comment faire pour éviter que ma plante courgette et ses feuilles attrapent des fins duvet blancs? Ça commence petit et à la fin tout est rempli.
Oui, alors c'est vrai que la courgette, c'est une plante qui peut se faire attaquer par la cochenille floconneuse, comme beaucoup d'autres, oui. C'est mieux de prendre le problème au démarrage pour éviter la propagation par ponte de cette cochenille. L'intervention, elle se fera par un produit bio qu'on arrive à trouver dans le commerce. C'est en général des huiles minérales qui, une fois humectées sur la plante, vont asphyxier le parasite qui s'y trouve. C'est vrai que si vous avez une forte attaque, après, c'est plus compliqué. Il faudra peut-être traiter 2 ou 3 fois pour prendre les quelques générations qui sont latentes sur le parasite.
Et puis, on parle courgettes et on parle salade également ce matin. Mais par contre, nous avons reçu une question de Angie de Rouge-Terre qui nous a appelé au 0901 70 20 20 et nous a posé une question par rapport aux salades, aux différents types de salades. Alors, on vous conseille, Angie, de rappeler Olivier Ribaud quand il sera là. Hein, Jean-Pierre, je crois que c'est quelque chose que vous conseillez également. Il est horticulteur et s'y connaît spécialement bien en salade. Hein.
Et dans la culinaire égale, oui.
Et dans la culinaire également. Donc, avec lui, on parlera tout ça. Donc, on va reprendre cette question, Angie, quand Olivier Ribaud sera avec nous. Et puis, nous avions reçu également une question de Seb de Fleurier, n'est-ce pas, Sarah?
C'est ça, Seb de Fleurier, qui se demande, est-ce qu'il existe des plantes qui font office de répulsifs à insectes indésirables, comme les fourmis, les guêpes ou les moustiques?
Oui, bonjour Seb. En fait, dans les caissettes sur terrasse, on aime bien y planter de la lavande et du géranium. C'est des plantes qui sont assez fortes au niveau de l'odeur. Et puis c'est vraiment un répulsif efficace au niveau du moustique en tout cas. Après, au niveau de l'abeille et de la guêpe, un peu moins. Après, c'est plutôt les pièges plastiques qu'on connaît avec de la bière dedans ou des choses comme ça qui sont plutôt efficaces. Mais pour le moustique, oui. Alors effectivement, ces deux plantes, lavande et géranium, c'est quelque chose qui marche bien.
Pour les fourmis, alors?
Alors là, c'est plutôt compliqué parce qu'on rénove sur une surface qui est plutôt sécharde, souvent avec un dallage, avec des espaces où la fourmi peut trouver des interstices pour se faire sa fourmilière. À part les petits appâts qu'on trouve dans le commerce pour essayer de limiter la casse, la fourmi, elle est là.
Et nous avions reçu une question à l'époque de la part de Madeleine, de Porrentruy. Madeleine qui nous a posé une question par rapport à son buis. Son buis a été dévoré ses feuilles ont été dévorées, donc évidemment elle se demande si c'est la pyrale du buis, sûrement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser? Alors, petit conseil, pyrale du buis.
Bonjour Madeleine, si c'est pour se débarrasser du parasite, ça serait un traitement, mais on est vraiment déjà trop tard. Le dégât, il est vraiment là, hein, on le voit. Il y aura une deuxième génération qui va arriver dans 15 jours, 3 semaines de ce parasite. Donc, si le dégât sur le buis n'est pas trop conséquent, Jeter un coup d'œil au visuel, et puis quand vous verrez les chenilles arriver avec un insecticide standard, hein, c'est un parasite qui part relativement facilement. Et puis si le dégât est trop conséquent, le mieux c'est d'éviter les buis dans les aménagements paysagers, parce qu'effectivement, on part sur de longues années de combat avec ce parasite. On ne sait pas trop où on va au niveau de la pérennité du buis de nos contrées.
C'est un virus, enfin, une maladie qui peut se propager à d'autres plantes également ?
Non, c'est propre
au buis.
Oui, tout à fait. C'est un insecte qui vient, qui pond. Et puis la chenille se développe sur ce végétal pour arriver à redonner une deuxième, troisième colonie durant l'été.
C'est quelque chose qui existe également dans les autres pays ou c'est propice à notre région ?
Non, mais il y a une dizaine d'années, c'était un problème qu'on ne connaissait pas du tout. Ça a été importé du côté de l'Asie. Et puis maintenant qu'elle est là, elle s'est super bien établie chez nous et puis il faudra vivre avec.
Laurence se demande, est-ce qu'il faut connaître la composition de sa terre avant de la nourrir en engrais ou ça n'a pas d'importance ?
Oui, alors la question, elle est pertinente, mais en général, vos substrats, quand vous les achetez dans le commerce, vous avez déjà une donnée qui est au niveau de l'azote, du phosphore et de la potasse. En général, vous êtes déjà relativement bien doré avec ces éléments. Après, durant la vie de votre terreau dans le pot, dans le bac, il est vraiment conseillé de mettre de l'engrais en arrosage. Une analyse sur une barquette, sur une caissette n'est pas judicieuse parce qu'on n'est pas dans une super grande culture. Et puis, simplement, un apport d'azote liquide à l'arrosage va faire que votre plante va survivre sur la période végétative. Et puis, après, durant l'hiver, de toute façon, ce terreau va se trouver complètement lessivé par l'arrivée de la neige, de la pluie. Donc, ça ne sert à rien non plus de mettre trop de phosphore, de potasse sur ces terreaux parce qu'ils n'ont pas la structure nécessaire pour maintenir ces éléments dans leurs fibres.
Est-ce qu'il y a un moyen simple de chez nous pour savoir quelle est la composition de notre terre ?
Il y a des moyens simples, je dirais c'est surtout le visuel. Si vous avez une plante qui est plutôt jaunâtre, qui ne se développe pas, qui est chétive, puis que ce ne soit pas un problème d'excès d'eau, c'est sûr que ce sera un manque d'éléments nutritifs. Il y a aussi un moyen hyper facile sur les pelouses. Si vous voyez en ville, des fois, les pelouses qui sont un petit peu jaunâtres, comme ça, avec des touffes très, très vertes, et bien, ce sera vos petits compagnons à quatre pattes qui seront passés par là. Et puis, ce sera vraiment la preuve que vous avez une terre qui est très, très pauvre. Alors après, avec un épandage d'engrais uniforme sur l'ensemble de votre pelouse, vous pouvez corriger ça. Et puis, ce sera une lutte efficace contre les mauvaises herbes et la mousse.
0900 70 20 20, c'est le numéro à composer jusqu'à 8h au prix de 36 centimes la minute. Si vous voulez contacter notre paysagiste Jean-Pierre Ribaud à Queuves, c'est lui qui répond à toutes nos questions ce matin. On va faire une petite pause musicale avec ce titre de De Palmas, J'en rêve encore. Et juste après, on va traiter un SMS, on va parler mouches tout à l'heure.
7h, 8h, les jardinières.
Avec les jardinières, on apprend à jardiner grâce à Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Mais on apprend aussi des nouveaux mots qui nous seront utiles pour le Scrabble. Par exemple, ce SMS qu'on a reçu. J'aurais voulu savoir s'il y avait un moyen de se débarrasser de la mouche Suzuki et du Carpocaps. Et si oui, à quel moment ?
Oui, alors bonjour. Pour ce qui est de la mouche Suzuki, je la connais moins, mais c'est sûr que pour le Carpocaps, des interventions chimiques ou par piège asexué peuvent être efficaces. Quand on est amateur et puis qu'on a envie de se défaire de ces problèmes, le mieux c'est peut-être de suivre les conseils des stations cantonales d'arboriculture. On a des informations par SMS quand les vols sont virulents au niveau des papillons du Carpocaps, et puis ils nous donnent un délai d'intervention avec un produit sur ce qui est des pommes, poires, prunes, enfin c'est égal. Le problème c'est que c'est pas chaque année à la même période parce que ça se lie à la période végétative qui peut s'avancer ou se reculer. Et puis, comme par exemple sur la prune ou le pommier, il y a en tout cas deux vols. Donc il y a deux interventions nécessaires pour arriver à éradiquer complètement les Carpocaps. Et puis pour la Suzuki, c'est aussi peut-être la même chose, se poser la question une fois à la station cantonale. Je la connais moins.
Merci Jean-Pierre. Vous répondez donc à nos questions jusqu'à 8h. Vous qui nous écoutez, vous n'hésitez pas, 0900 70 20 20, au prix de 36 centimes la minute, pour poser votre question en direct à Jean-Pierre Ribaud. Vous pouvez également utiliser le SMS au 939. On avait reçu une question de Julia de Tavannes qui nous demande la chose suivante. Mes voisins ont peint le tronc de leur arbre fruitier en blanc. Alors je ne me demande à quoi ça sert, ni ce que c'est.
En tout cas, pas une œuvre d'art, c'est sûr. Elle aurait fait plusieurs couleurs, non. Dans le passé, ça se faisait couramment avec de la chaux, dans l'idée de désinfecter les troncs. Mais maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé, qui ne se produit plus, parce qu'on sait très bien que les maladies, les parasites ne se trouvent en tout cas pas sur les troncs, mais plutôt dans les parties fines des ramifications fruitières émises à feuilles. Donc, c'est, à part l'aspect visuel qui n'est pas très joli et puis qui n'est pas nécessaire, c'est pas la bonne solution, je pense pas.
Il faudrait donc mettre de la chaux sur les branches ?
Non, non plus. Parce que la chaux est quelque chose qui pourrait être brûlant au niveau des espaces végétales et des nouaisons. Et puis, vous imaginez le topo ? Non, pas la solution. Une intervention plutôt ciblée avec des produits ciblés au bon moment. Ça, c'est le but de la lutte.
Est-ce que c'est compliqué à appliquer ou on peut le faire nous-mêmes ?
Au niveau du traitement, vous parlez ?
Oui.
Non, alors ça peut se faire avec un pulvérisateur, bien sûr. Si les fruitiers ne sont pas très très grands, on arrive à trouver des rallonges de 4-5 mètres. Il faut toujours se prémunir qu'il n'y ait pas un lessivage du produit sur feuille. Ça veut dire qu'en général, il n'y a rien qui devrait tomber au sol. Juste un fin brouillard sur feuillage suffit pour une super intervention chimique. À ce moment-là, justement, on essaie de limiter au niveau des quantités de produits. On essaie de prendre des produits qui ne sont pas très agressifs. Il faut surtout se prémunir de ne jamais traiter quand il y a de la fleur sur fruitier ou au sol, parce qu'on sait que, en tout cas, ce qui est des insecticides, ça va causer un dégât irréparable sur l'abeille. Et puis, on les aime tellement, ces petites bêtes.
Oui, effectivement. Il faut en prendre grand soin.
Tout à fait.
On a reçu un SMS de la part de Marie qui vient de nous demander la chose suivante. J'aimerais offrir un olivier. Que me conseillez-vous ? Est-ce qu'il y a une sorte ou une qualité d'olive plus facile que d'autres pour notre région ?
Oui, l'olivier, non, c'est pas une plante qui est très très facile dans nos contrées. Si vous l'achetez maintenant dans les grandes surfaces, on en trouve relativement facilement. Elle sera garantiment belle jusqu'à cet automne. Le problème, il va commencer de se poser à partir du mois de décembre, janvier, février, quand vous l'aurez hiberné dans un espace qui sera pas trop tempéré, pas trop froid. Il faudra pas oublier de lui mettre de l'eau. Il va quand même manquer de luminosité. Puis là, vous aurez une chute à ses conséquences du feuillage. Et puis, au printemps, quand vous le ressortirez, eh bien, ce sera le même problème au niveau de l'ensoleillement. Il faudra pas le sortir d'une fois parce que vous risquez d'avoir des brûlures de soleil sur tronc, sur feuillage. Il faudra le réadapter gentiment. C'est pas la plante la plus facile à faire venir par chez nous. Au niveau des essences, j'en connais qu'une. Voilà.
Des olives, on peut en récolter quand même ?
Non.
C'est pas forcément un fruit qui vient. C'est un peu les bananiers qu'on a en appartement. Ça s'appelle bananier, mais il y a rarement des bananes.
Alors, on doit vous reprendre, parce que le bananier, dans les appartements, si vous avez une véranda avec un espace assez aéré,
ça peut venir ?
On peut avoir des régimes de bananes, sans problème.
Alors, pardon, effectivement.
Il faut la véranda.
Oui,
voilà.
Ouais, un espace adapté, bien sûr.
Mais les olives, c'est plus difficile.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué, oui.
On a une personne en ligne, c'est Sylviane Desgenais qui est avec nous et qui a une question pour vous, Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Sylviane.
Bien le bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
On écoute votre question.
Je vous appelle pour des oliviers. J'ai des oliviers en pot qui ont déjà 2-3 ans, mais il y en a deux qui ont perdu complètement leurs feuilles.
Oui, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure à la question précédente. C'est souvent des problèmes d'hivernage, ça. Si vous les avez mis dans un garage, dans un endroit où il faisait peut-être un peu trop froid, trop humide ou trop sec, ou l'olivier est difficile à hiberner. Si vous n'avez pas un espace jardin d'agrément tempéré durant l'hiver avec assez de luminosité, puis pas oublier de lui mettre de l'arrosage, vous arriverez à les conserver. Mais on a beaucoup, beaucoup de cases durant l'hiver sur ces passages-là.
Sur ces plantages-là, parce qu'on les a déplantés l'année passée, on les a dépotés, on a mis un pot un peu plus grand, et puis vraiment, ils allaient bien l'année passée, quoi.
Oui, non, mais c'est durant l'hiver que vous avez eu des problèmes, c'est sûr, et puis ils sont difficiles à résorber.
Il faut vraiment... Et puis ça ne repousse pas.
Alors, je ne sais pas dans quel état se trouve votre olivier actuellement, mais s'il n'a plus du tout de feuilles et puis qu'il n'a plus de partie végétative verte, je pense qu'il aura passé de pas à trépas, oui, effectivement.
Ah d'accord, ok. Alors merci beaucoup, je vous remercie.
Merci à vous.
Bonne
journée à vous.
Un bon week-end.
Belle journée. On arrive déjà dans quelques minutes à la fin de notre émission. Jean-Pierre Ribaud, vous avez un petit conseil à donner à nos auditeurs pour le jardinage du jour. Il va faire quand même assez chaud. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur jardin ? Qu'est-ce qu'il faut préconiser ?
Oh, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des tondes, commencer de réélever un peu les plateaux de tondeuse parce qu'on arrive sur le mois de juin où les températures vont être plus puissantes. Au niveau des semis, il faut gentiment enlever le pied parce qu'on aura du dégât sur semis, c'est évident. Mm-hmm. Potager, ben, faut continuer de planter. Faut pas oublier de combattre la mauvaise herbe parce que quand tout pousse, ça pousse aussi énormément cette mauvaise herbe. Et puis un carreau qui est envahi de mauvaise herbe n'est déjà pas joli, mais en plus la concurrence est virulente au niveau des légumes que vous aurez à planter. Et puis pour ceux qui ont des cerises dans les avancées, il faut courir avec les échelles parce qu'elles sont merveilleusement belles et bonnes, en tout cas en mode cuve.
Et au niveau des arrosages, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer à arroser ou pas encore? Bon, pour le gazon, par exemple?
Alors le gazon, non, bah, je dirais que les vieilles pelouses vont encore passer le cap sans problème. C'est surtout dans les nouveaux semis qu'il faudra quand même intensifier les arrosages maintenant pour gagner quelques jours d'avance sur ce démarrage. Parce que après, quand on a des fortes températures, même arroser une pelouse qui vient d'être semée, on n'arrive pas à la sauver. On a une brûlure sur la semence qui est très frêle entre midi et 14 heures. Et puis, une fois que la semence a péri, ben, vous avez une pelouse qui va être très éclaircie avec une grande arrivée de mauvaises herbes et puis personne ne sera content. Après, au niveau potager, l'arrosage, en tout cas, ce qui est, c'est évident à la plantation. Après, derrière, avec le temps qu'on a, si c'est une bonne terre humifère, il n'y a pas trop de soucis au niveau de ces arrosages. Mais n'oubliez pas non plus vos plantes en pot parce qu'évidemment, c'est toujours des plantes qui sont en souffrance, hein, faut le savoir. Et puis, de l'arrosage et un peu d'engrais à chaque semaine est nécessaire.
Pour les petites plantes, les petites fleurs qu'on plante dans les pots, dans les jardins, c'est encore le moment de les planter, évidemment.
Ah oui, bien sûr. Non, aucun problème. Tout ce qui est de légumes annuels, bisannuels, même vivaces, du moment que vous avez un carreau qui est prêt, un carreau, donc une place dans votre potager, un bon arrosage derrière, ça va démarrer sans souci.
Et ben voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud de nous avoir conseillé et aidé ce matin. On repart tout content avec plein de bons conseils et avec la motivation de s'activer dans nos jardins. Merci Jean-Pierre, belle journée.
Merci pareillement à vous.
Et des bons conseils, on en a encore sous le coude puisque les jardinières reviennent samedi prochain de 7h à 8h. Vous pouvez déjà nous envoyer toutes vos questions par SMS au 939 en n'oubliant pas le mot jardin et l'espace en début de message ou par formulaire internet bien sûr. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Allez, bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.